Motorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Libertaire 89.4 avec notre émission antimilitariste contre la guerre plus que jamais, si vis pacem. Rappelez-vous toujours la devise de Louis Lecoing qui a obtenu le droit d'objection de conscience à être inscrit dans la loi grâce à Charles de Gaulle qui était très clairvoyant déjà en 1963. S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. Voilà parole de Louis Lecoing. Nous avons aussi une invitée aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir Edith Boulanger du Mouvement de la Paix, rédactrice en chef de la revue Planète Paix, et qui nous fait donc la grande joie et l'honneur d'être avec nous, parce qu'il y a vraiment de quoi se mobiliser. Et nous attendons encore l'arrivée d'un autre militant du Mouvement de la Paix, Yves-Jean Gala, qui nous a promis d'arriver incessamment sous peu. Voilà. Et vous savez sûrement qu'il y a de quoi s'inquiéter, de quoi militer plus que jamais contre la guerre et contre les conneries militaristes. Nous avons en effet au menu aujourd'hui le SNU et la loi de programmation militaire. Nous avons au menu, dans le sillage de cette loi de programmation militaire, qui est une augmentation de 50% du budget normal, la guerre en Ukraine, qui ne semble pas vouloir s'éteindre, tout le contraire. Et nous avons aussi d'autres petites informations à vous transmettre concernant le congrès international qui a eu à Londres de l'International des résistants à la guerre il y a 10 jours. Et aussi, nous devons vous parler du congrès à Vienne où a eu lieu un important forum contre la guerre organisé par de nombreuses organisations et ONG internationales, de la société civile. Donc, vous voyez, le menu est vraiment très, très riche. Quand Coluche disait « On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de monde qui regarde », ici, à Civis Pacem, j'espère que vous entendrez les choses en plus clair, même s'il n'y a pas tout le monde qui regarde. Alors, par quoi allons-nous vous mettre en appétit pour que vous vous sentiez aussi mobilisés, chers auditeurs de Radio Libertaire, pour que vous aussi, vous n'acceptiez pas à mettre la tête dans le sable et à souscrire à la pseudo-union sacrée qui a déjà inauguré la Première Guerre mondiale, cette union sacrée qui avait été critiquée par Jean Jaurès et qui, 15 jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, a été assassinée. Et d'autres pacifistes ont perdu la vie parce qu'ils allaient à contre-courant du militarisme, à contre-courant du triplement des budgets militaires, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, sous l'influence de la propagande impérialiste et capitaliste. Vous savez que capitalisme et impérialisme sont les deux doigts du même corps des profiteurs de guerre. L'argent étant le nerf de la guerre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui est nouveau, c'est la paix et la non-violence, la culture de la non-violence. Parce que la culture de la guerre, elle veut faire la guerre à la culture. Mais l'humanité se sauvera par la culture et par la beauté de la culture, par l'harmonie, pas par la destruction. Alors, Edith, soyez la bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous.
Alors, justement, je reprends ton terme. Franchement, il ne faut pas dire culture de la guerre, parce que culture et guerre sont antinomiques.
C'est pour ça que je dis culture.
Voilà, donc, on est pour la culture de la paix, qui a été prônée par l'ONU en 1999, bien sûr. Mais ce que je vais revenir, c'est sur l'appel qui a été lancé à l'issue du Forum international des peuples pour la paix en Ukraine, qui a eu lieu en juin, là. Il y a donc un appel qui a été très clair. C'est cessez le feu immédiat et négociation. Et du coup, eh bien, il a été entendu qu'il y ait une semaine de mobilisation internationale contre la guerre en Ukraine, et même contre toutes les guerres, mais plus spécialement la guerre en Ukraine. Ça sera du 30 septembre au 8 octobre. Et il a été décidé que le 7 octobre sera la journée internationale de mobilisation contre la guerre en Ukraine. Alors à Paris, on va faire quelque chose avec effectivement plein d'associations. Vous savez que le mouvement de la paix est dans de nombreux collectifs. Donc c'est l'occasion ou jamais aussi de manifester contre la guerre en Ukraine. Mais il y aura aussi, 15 jours avant, vous savez tout le monde, certainement tout le monde le sait, que le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Donc, toujours, il y a une manifestation à Paris après le samedi qui suit le 21 septembre. Donc là, ça sera le 23 septembre. Et nous allons nous allier avec des gens qui luttent depuis très longtemps, dont ICAN France, Abolition 2000, etc. On va s'allier pour faire une marche le samedi 23 septembre pour la paix et marcher contre les armes nucléaires.
Notez bien la date. Samedi 23 septembre, on marche contre la guerre. Et nous espérons que d'ici là, on aura pu un petit peu dégonfler toutes ces baudruches remplies de d'uranium appauvri. Voilà. Ils appauvrissent l'uranium, mais ils s'enrichissent côté compte offshore pour leurs finances. Ne vous inquiétez pas. Il faut que nous puissions mettre le holà à ces menées qui sont au détriment des peuples, au détriment de nos impôts, au détriment de nos libertés. Même maintenant, vous avez certainement entendu, il y a beaucoup de médias qui sont en grève actuellement parce qu'en France aussi, la liberté d'expression semble être en danger. Voilà.
Alors, j'en profite justement parce que franchement, il y a un scandale phénoménal, c'est Julian Assange. Il y a un comité de soutien, le mouvement de la paix fait partie du comité de soutien Julian Assange, et il organise beaucoup de réunions. Une des dernières, ça a été à la Bourse du Travail avec Stella Assange, la femme de Julian Assange, qui est venue d'Australie, avec Ronnie Broman, avec Cédric Villani, avec Serge Halimi, d'ailleurs. Voilà. Et un député de la France Insoumise. Et franchement, en ce moment même, il est question que Julian Assange soit extradé aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison.
Oui, il faut peut-être rappeler aussi qui est Julian Assange et pourquoi cela, il est tellement mal vu et persécuté par les États-Unis.
Alors, il aura 52 ans le 3 juillet. C'est pour ça qu'il y a un concert à Paris le 3 juillet pour son anniversaire. Mais il faut savoir, c'est un journaliste donc australien qui publie en Europe et qui est jugé, entre guillemets, par les États-Unis. Parce qu'en fait, il n'y a aucun procès contre lui, il n'y a aucun chef d'accusation contre lui. Il n'empêche qu'il est privé de liberté depuis 11 ans. Il s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres pendant quelques années. Puis, il a été emprisonné dans une prison de haute sécurité à Bermarsh, à Londres, depuis 4 ans. Donc, c'est une prison style Guantanamo. Il n'y a aucun chef d'accusation contre lui, mais il n'a fait que son travail de journaliste et c'est pour ça qu'il est qu'il est condamné, même pas condamné, il est en prison, c'est tout, et que les États-Unis demandent son extradition, où là, ça serait terrible, bon, voilà. Mais en fait, il a révélé des mensonges par rapport à la guerre d'Irak, à l'Afghanistan.
Des mensonges militaires.
Des mensonges, voilà. Mais qui étaient à la portée de tout le monde. Voilà. Pas que contre les USA d'ailleurs, mais c'est les USA qui l'ont emprisonné.
Oui, qui lui reprochent d'avoir
violé le secret militaire. Et il faut reconnaître que la presse ne l'aide pas beaucoup. Ne l'a pas beaucoup soutenu, malheureusement.
On va faire une pause musicale. Oui. À tout à l'heure.
Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme de pays loin, cobaye des colonies, tout petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, épouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvré, polac du marais du temple des rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer. Tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille. Le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
Merci HK. Magnifique chanson. On sait bien que ce n'est qu'à l'étranger que les étrangers sont étrangers. Mais, nos vies n'ont plus aucun sens depuis qu'elles sont indexées au prix de l'essence. Autre parole de HK. Donc je souhaite la bienvenue à Yves-Jean Galla qui vient d'arriver. Et merci beaucoup. Voilà, vous avez la parole.
Mais merci de nous accueillir. C'est précieux de pouvoir s'adresser comme ça à un grand nombre de personnes. Donc là, vous avez sans doute parlé déjà de ce qui se passe dans l'est de l'Europe, enfin en Ukraine, pas beaucoup, mais. Moi, ce que j'aurais surtout envie de parler, ce dont j'aurais surtout envie de parler, c'est ce matraquage médiatique, mais surtout, alors c'est vrai bien sûr sur la guerre d'Ukraine, mais c'est vrai sur les retraites, ça a été vrai sur les retraites, ça continue à l'être. C'est vrai sur l'ensemble des éléments sociaux qui peuvent être. Et on commence à voir tout un matraquage actuellement sur ce qui se passe actuellement, enfin ce qui s'est passé, le meurtre de ce jeune homme à Nanterre, parce que c'est un meurtre, il n'y a pas d'autre mot. Et donc on commence là, à la radio ou à la télévision, enfin officielle, ou dans les grands médias, on commence à dire finalement c'est sa faute, il avait qu'à pas être là, puis en plus il avait eu des problèmes avec la police, c'est un gamin de 17 ans, mais on en dresse un portrait qui est là. Moi, je trouve que c'est vraiment effrayant. Et donc, au mouvement de la paix, nous sommes extrêmement sensibles à cette question de la liberté de la presse. Parce que dans le fond, passe par la presse tous les messages qui poussent vers la violence, qui poussent ou au contraire pour l'apaisement, etc. Et donc, on a vu par exemple aussi bien en ex-Yougoslavie que au Rwanda les effets des médias qui chauffaient à blanc un certain nombre d'éléments de la population contre d'autres éléments de la population pour que ça se termine de manière tragique. Donc, si vous voulez, le mouvement de la paix a une sorte de boussole au travers des Nations Unies qui sont les 8 domaines d'action de la culture de la paix, c'est-à-dire des attitudes générales, des points qui poussent vers la paix. Nous disons que si la liberté de la presse, comme d'ailleurs, bon, pour prendre un exemple, l'égalité homme-femme, si ces points progressent, la paix progresse. Si, au contraire, ces points régressent, c'est la paix qui recule. Et sur les statistiques, enfin non, les études qui existent sur la presse en France montrent que la situation de la presse recule en France depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est un point sur lequel il faut qu'on soit ferme, qu'on le dise. Et que on agisse auprès de je sais pas, de gouvernements. Peut-être qu'il y a des journaux qui vont plus acheter, mais c'est. Je reviendrai sans doute sur la question de la presse avec notamment Julian Assange, qui. Enfin, dont je crois vous avez parlé, mais c'est important parce que cet homme vit dans des conditions absolument dramatiques, sans qu'il y ait aucune. Enfin, il n'y a rien juridiquement contre lui.
Il est devenu une sorte de symbole,
oui,
des limites de la liberté d'expression. Et c'est vrai que la rhétorique intéressée de ceux qui détiennent le pouvoir, les armes et l'argent, elle ne va pas vers l'objectivité, vers la réalité. Elle va vers l'hypnotisation des consciences. Mmh. Ainsi, lorsqu'on devient soldat, notre cerveau commence à entrer en hibernation parce qu'on n'a plus qu'à obéir et plus qu'à exécuter des ordres. Donc, gare aux jeunes. Je fais ici une ouverture sur le SNU. Mmh. Se laisser embarguer, embrigader par les militaires, c'est perdre en matière grise. Et la matière grise, c'est ce que l'être humain a de plus précieux. Elle nous permet de faire la part des choses. La matière grise, la réflexion qui demande du temps, elle est une menace pour les dirigeants, qui sont les descendants des dinosaures. Nos institutions sont quelque part toujours en retard sur le progrès de nos intelligences, parce qu'elles nous sont léguées par un passé lointain. Donc, dès que la guerre s'annonce, dès que les armes convergent et s'enflent, c'est que le raisonnement, au contraire, diminue. C'est la violence et le rapport de force qui s'impose.
Alors, donc vous savez très bien qu'on est contre le SNU.
Et voilà.
Le service national universel, on a déjà écrit contre ce service, parce que vraiment, il s'adresse à des jeunes qui ont 16 ans. C'est là où, justement, l'ouverture au monde, etc., et c'est là qu'il ne faut pas d'embrigadement, justement, à 16 ans, puisque c'est malléable, voilà. Et c'est là qu'il faut faire de la philosophie, etc.
Absolument.
Donc, vraiment, on est contre ce projet de service national universel qui dit qu'il y a un brassage ainsi de la population. C'est faux. C'est faux. Et nous espérons que vraiment, les jeunes ne s'inscrivent pas, puisque pour l'instant, ce n'est qu'au niveau volontaire. Mais quand même, en mars 2024, ça va rentrer dans les secondes. C'est scandaleux.
C'est dans les cartons.
C'est dans les cartons. Ça a été dit. Sarah El Haïry l'a dit. Oui. Voilà, ça sera donc mais volontaire et non pas obligatoire, ce qui va poser d'énormes problèmes, d'autant plus que ça se fait au sein de l'éducation nationale. Et donc oui. Ça, c'est un vrai scandale pour nous, puisqu'on prend de l'argent de l'éducation
Absolument.
Nationale, alors qu'il n'y en a déjà pas assez. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la militarisation des esprits avec cette propagande éhontée.
Oui.
Dans tous les médias, mais non seulement dans les têtes, parce qu'on ne peut sortir de la guerre que, par exemple, qu'avec des armes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou même qu'avec des armes nucléaires. Mais c'est un vrai scandale, non seulement dans les têtes, mais aussi dans les budgets.
Oui, matériellement.
Matériellement, puisque la loi de programmation militaire, elle est actuellement en lecture au Sénat, elle a été votée.
Et on a manifesté.
Et elle a été votée à l'Assemblée nationale, donc elle est en lecture pour le deuxième jour au Sénat. Et c'est hier, je crois, ou avant-hier, mardi, le premier jour de la lecture, nous avons manifesté à plusieurs associations devant le Sénat pour effectivement dire qu'on ne veut on ne veut pas, mais 413 milliards d'euros pour les 7 ans à venir, ce qui
c'est
engage notre défense. Alors, mais c'est vrai, on a 413 milliards, on ne se rend pas compte des milliards, des millions, mais ça fait quand même 1870 euros par seconde à dépenser pendant 7 ans. Et si on compte qu'il y ait 13% pour les armes nucléaires, cela fait 240 euros par seconde pendant 7 ans que sur nos impôts seront prélevés 240 euros pour des armes dites non-emploi et on espère qu'elles ne seront pas utilisées. Et en plus de ça, on fait 4 sous-marins à propulsion nucléaire.
C'est scandaleux.
Un porte-avions dont l'efficacité, même d'après des généraux, n'est pas forcément assurée.
C'est clair et net. C'est clair armes nucléaires, pour nous, oui. C'est une question de fric.
Oui, peut-être. Mais en tout cas, on n'en veut pas. Non. D'ailleurs, il y a un traité sur l'interdiction des armes nucléaires, que la France n'a pas signé, bien sûr, comme les 8 autres pays. Mais on est là pour, justement... Et il faut qu'on dise qu'on ne veut pas augmenter le budget des armes nucléaires. Ceci dit, personne ne le sait. Qu'il y a une augmentation de 40% pour le budget. Personne, ça ne se dit pas. C'est un peu tabou, n'est-ce pas? On ne discute pas ça. Bon, donc, il faut que les Français sachent que vous allez dépenser sur votre argent 1870 euros par seconde et 240 pour des armes nucléaires qui, franchement, on lutte beaucoup pour le climat. Okay. C'est super.
Mais là, il y a un lien.
Mais si... Évidemment, il y a des armes nucléaires. S'il y en a une sur les 13 700 qui pète, eh ben, c'est la planète. Donc, il n'y a plus de planète. C'est même plus la peine de lutter contre le réchauffement climatique.
Voulez-vous qu'on fasse une pause pour laisser respirer nos auditeurs?
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, suffit de nous envoyer à nos questions, vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenades et bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'état policier, à bas l'état policier, à bas l'état policier. Parce que vous avez posté les cafés dans les gares, vos hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Ibrahim, les Moussa, au nom de ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'état policier, à bas l'état policier, à bas l'état policier. Pour venir à bout de nous, les manifs terminés, vous frappez de nouveaux coups face aux vaqueurs à leur nas, à leur bande de Dijalas. Nous crions le poing levé dans les boîtes et les foyers. Reconnaissable pour les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, du Chiapas, de Bamako, de Berlin à Chicago.
À toi la parole.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Edith vient de dire. C'est que je trouve extrêmement intéressant de voir que les jeunes se mobilisent contre le service national universel. Madame Ayri a fait toute une caravane dans une trentaine de villes, je crois, ou 40 villes de France. Sur un bon nombre d'entre elles, les jeunes s'étaient mobilisés pour que, justement, la présentation qu'elles voulaient faire ne puisse pas se faire. À Paris, la caravane s'est arrêtée au parc André Citroën dans le 15e arrondissement.
Oh, c'est super.
Et la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est un match de foot avec 10 jeunes, alors qu'ils en attendaient des centaines. Je pense qu'on peut être tout à fait rassuré sur la prise de conscience des plus jeunes pour se mobiliser et ne pas accepter n'importe quoi. Et un peu dans le même sujet, un des problèmes de l'armée française actuellement, c'est que ils arrivent à recruter parce que les jeunes n'ont pas de boulot, parce que c'est un salaire, etc., mais ils ne restent pas. Donc, alors c'est d'abord, ça oblige à refaire des recrutements, c'est-à-dire que toute la formation qu'ils ont eue ne servira à rien. Heureusement, après, mais ils sont obligés de faire énormément de publicité pour que des jeunes le fassent. Donc là aussi, les jeunes, ils sont pas fous, et ils profitent justement d'un certain nombre de choses, mais après, bon, j'ai envie de dire, ils aspirent à une vie normale, qui serait dans le civil. Donc, j'ai une grande confiance dans la maturité d'un bon nombre de nos jeunes, et je pense qu'il faut qu'on les aide, certainement, mais il faut aussi qu'on les écoute et qu'on écoute leur manière de s'exprimer. C'est en tout cas, au mouvement de la paix, quelque chose d'important dans nos pratiques.
Alors, c'est aussi un hommage que tu rends aux enseignants qui ont certainement contribué à cette maturation, à cette capacité d'analyse et de réflexion. Parce que pour mener des négociations à l'échelle internationale, il faut être capable de réfléchir, de prendre le temps. Or, apparemment, les va-t-en-guerre en Europe centrale, ils semblent avoir peur des négociations. Ils semblent avoir peur du cessez-le-feu. Ils font confiance à leurs armes.
Ah oui.
Et ça veut dire que leur cerveau est bloqué. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Peut-être qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'enseignants éclairés en Russie ou même en Ukraine. Quand l'argent gouverne, l'esprit, il est où? Il est en berne. Quand on donne trop de place à l'argent, quel que soit le régime dictature ou démocratie, le fruit est pourri à l'intérieur. Donc nous devons encourager les va-t-en-guerre à réfléchir pour qu'ils aient du courage à négocier. Et ça demande du temps.
D'ailleurs, ce n'est pas innocent. Le premier domaine d'action de la culture de la paix, c'est l'éducation. C'est le premier domaine.
Mais quelle éducation?
Mais quelle éducation? Ce n'est pas la fabrique de diplômés.
Voilà. Ni la fabrique du consentement.
Voilà. Donc, c'est apprendre, évidemment, à réfléchir.
Par soi-même.
Avec de la philo. Mais il faut reconnaître que je crois qu'il y a moins de philo maintenant, avec des mathématiques, etc. Donc, c'est quand même à longue échéance. Ouais. Quand on
fabrique, plusieurs années.
Quand on éduque, il faut plusieurs années, on évolue, ouais, etc.
Toute une génération.
Voilà. Et c'est plus facile d'embrigader.
Et on a intérêt, quand on est militaires et profiteurs de guerre, à ce que les cerveaux ne s'épanouissent pas. On a intérêt à ce que les gens soient soumis. C'est pourquoi la France insoumise porte bien son titre.
Mais oui, je dirais pas que c'est que la faute des militaires. Moi, je dirais que c'est plutôt la faute des politiques. Parce que les militaires, ils sont aux ordres de la politique.
Ah ben donc,
la discipline.
Ou vice-versa. Qui sait, va savoir.
La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et de tous les instants. C'est ce que j'ai appris il y a très longtemps, quand j'ai fait mes classes, quand j'avais 20 ans. Et je pense, alors je ne sais pas si on leur apprend ça, mais ça montre bien que l'obéissance est un des éléments extrêmement importants.
Et sur le plan psychosocial, cette situation du jeune, de la recrue au sein de l'armée, fait que son cerveau préfrontal, où se situe la réflexion, il commence à s'endormir, parce qu'il ne fait plus que obéir.
Oui, mais je crois qu'il faut aussi, hein, faut leur faire confiance, là.
Non, il y a des militaires intelligents. C'est pas ça qui est en cause, je crois.
Non,
moi, je ne crois pas que c'est une question d'intelligence. C'est une question de principe. Et pourquoi on va dans l'armée? Parce que franchement, je comprends que des jeunes que j'ai rencontrés plusieurs fois veuillent défendre notre patrie, veulent défendre des principes, la démocratie, etc. Ça, oui. Bon, je trouve que c'est louable. Parce que c'est ça qu'on entend. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent défendre des valeurs.
Oui.
Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on les trompe. Il me semble que, par exemple, nous avons rencontré un jeune qui avait été en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'il voulait effectivement développer la liberté des femmes. On leur faisait croire, quand l'armée française est allée en Afghanistan, c'était pour défendre le droit des femmes.
C'est ça.
Donc
c'est
évidemment, ça. Il a été choqué par non seulement le résultat, parce qu'il ne l'a pas vu, mais il a été choqué par ce qu'il faisait. Donc on trompe, parce que franchement, ce n'est pas pour défendre la démocratie qu'on va faire la guerre en utilisant des armes.
C'est la démagogie.
C'est pas possible de défendre une démocratie avec des armes. C'est ça qu'on dit.
C'est absolument.
Le huitième principe de... c'est pas un principe.
L'article.
Le huitième domaine d'action de la culture de la paix, c'est relatif justement au règlement des conflits. Et il dit bien, des conflits, il y en aura toujours, que ce soit locaux ou bien planétaires. C'est la façon de résoudre les conflits qui est importante. Et la violence, qu'elle soit verbale, en humiliant son vaincu, ou qu'elle soit par les armes, cette victoire-là n'aboutit jamais, jamais à une solution durable. C'est ça. Donc, il ne faut pas faire la violence, que ce soit par les armes ou que ce soit le mépris ou l'humiliation du vaincu, mais par des négociations. Et c'est bien plus dur de négocier avec son ennemi qu'il n'y paraît.
Même quelquefois avec soi-même.
Ah ben, bien sûr.
Parce que vous savez qu'il y a des mouvements, notamment la non-violence, qui plaident depuis des décennies qu'il y ait un enseignement du fonctionnement humain.
Bien sûr.
Parce que les gens connaissent mieux comment fonctionne leur ordinateur, comment marche leur voiture, comment marche leur lave-linge. Et eux-mêmes, à bord de soi-même, on est souvent désemparé, notamment lorsqu'on est débordé par les émotions, par la colère, aussi par notre ignorance. L'ignorance fait peur. Et donc nous entrons dans des mécanismes de défense qui aboutissent à la violence. Et tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience, et par le détour de l'enseignement, par le détour de la connaissance et de l'accès au savoir, on est très maladroit, on écoute ceux qui représentent, entre guillemets, l'autorité, qui sont censés en savoir plus long que nous. Or, sur le fonctionnement humain, nous sommes maintenus dans l'ignorance. Il n'y a que les professionnels qui connaissent un peu mieux le fonctionnement de l'être humain. C'est qui ? Qui sont les premiers spécialistes du fonctionnement humain? C'est l'armée. Mine de rien, la guerre psychologique joue un très grand rôle, surtout depuis le début du XXe siècle, où, comme par hasard, la psychologie a fait d'énormes progrès parce qu'elle est devenue scientifique. La psychologie n'est devenue scientifique, elle s'est émancipée du giron médical qu'au début du XXe siècle.
Mais à nous, Suzanne, d'utiliser justement la psychologie. Parce que justement, il y a un très bon livre de Madame Mosca qui a écrit « Quand les armes nucléaires interpellent le psychanalyste
ou
la psychanalyste ». Ben, ça, c'est formidable. Justement, je crois qu'en tant que pacifiste, oui, vraiment pacifiste, nous n'utilisons pas assez le ressort psychologique. Il faut peut-être relire les lettres entre Freud et Einstein. C'est très intéressant.
Boris Cyrulnik, Alfred Adler.
Voilà. Mais c'est récent, cette science est quand même assez récente.
Depuis 100 ans.
Mais donc il faut l'utiliser pour
le conditionnement.
Le conditionnement, etc. On avait vu ça. Mais il faut utiliser ça justement pour montrer que la haine, que la peur des autres entraîne les guerres. C'est la peur des autres et la haine, la division.
Et le désir,
alors qu'on est sur une même planète.
Et le désir, il y a pas de planète de s'approprier le bien d'autrui. Il y a ça aussi. Les armées, il y a ces deux choses. La défense, mais aussi la captation. Comme un prédateur,
ça, c'est la peur de manquer, la peur de manquer aussi.
Oui, il y a ça.
Et donc,
aussi.
On prend à l'autre.
C'est vrai.
Alors, au lieu de partager, on est sur une planète, la pollution n'a pas de frontières.
Tout à fait. Je regarde la montre, nous devons faire une pause musicale.
Merci Fabienne Thibault de cette magnifique chanson, tellement désespérante et désespérée. Tous les noyés dans la mer, toutes les victimes des guerres qui sont en train de se déployer, même en Europe. Nous avons de la pierre en nous, et notre crâne, c'est ce qui perdure le plus longtemps à travers l'histoire, qu'on trouve encore au bout de 10 000 ans, il paraît, on trouve encore des crânes humains, alors que le reste de notre squelette s'est pétrifié aussi, mais il se dissout aussi dans la terre ou dans la mer. Mais à l'intérieur de notre crâne, il n'y a pas de pierre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre crâne ? Des milliards et des milliards de neurones qui demandent qu'à danser et qui sont promis à un grand avenir, malgré leur immense fragilité. Lorsque l'être humain cesse de respirer, la première chose qui commence à mourir, ce sont les neurones. Parce que sans oxygène, notre cerveau meurt très rapidement et tout le reste met beaucoup plus de temps à mourir. Ce n'est pas parce que notre cerveau, c'est la partie la plus fragile de notre support terrestre, que c'est la partie la plus faible. Au contraire, c'est le paradoxe humain. L'esprit, l'intelligence, c'est la partie la plus forte en nous, en dépit des apparences. Tout ce qui est pierre et dur en nous ne fait qu'un temps, 100 ans au maximum. Et donc le crâne, mettons 10 000 ans. Mais ce n'est rien. Notre esprit peut vivre beaucoup plus longtemps. Donc développons l'éducation, développons notre capacité d'analyse, notre capacité de réflexion, notre capacité d'écoute et de négociation, Monsieur Poutine, Monsieur Zelensky. Voilà, merci. Fabienne Thibault, soyez consolés.
Là, bien sûr, le cerveau est l'élément déterminant. Souvent, avant que la science ne progresse, on disait c'était le cœur qui était considéré comme le noyau important, le siège des émotions, mais peut-être parce que c'est dans le corps la partie qui vit, parce que on l'entend battre un certain nombre de fois par minute, et donc c'est un signe de vie. C'est vrai que la psychologie a fait d'énormes progrès, mais elle a fait des progrès aussi dont il faut que nous nous emparions. Par exemple, en matière de psychologie des enfants, Françoise Dolto et sa fille Catherine, pour ne signaler qu'elle, on dit beaucoup de choses qui sont fondamentales sur l'enfant est une personne. Avant, on considérait que les enfants, c'était des sous-humains. Non, j'exagère, mais qu'ils n'avaient pas de raison. Et là, de plus en plus, on s'aperçoit avec la mère et la fille, notamment, mais avec d'autres. Là, c'est vrai, Cyrulnik a dit beaucoup de choses, etc. Il y a des tas d'auteurs qui ont dit des choses importantes, justement, sur ce qu'est l'homme et ce qui le fait vivre, ce qui le fait vibrer, etc. Je crois que c'est à partir de là qu'il faut que l'on travaille pour que chaque fois qu'on essaye de nous abêtir en ressassant un certain nombre de choses, on ait des réactions qui permettent de ça. Je crois que c'est que le premier domaine d'action de la culture de la paix soit cette question de l'éducation. Je crois que c'est tout à fait essentiel.
Et la déconstruction des clichés et des préjugés et des idées fausses.
Il faut que l'esprit critique, il faut que les gens, enfin j'ai dit les gens, il faut que nous tous, on soit même d'analyser une situation, de comprendre ce qui est bon pour notre pour notre intelligence et pour ce qu'on a envie de faire, pour, hein, et ce qui est mauvais. Bon, et c'est vrai que c'est à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. Je crois qu'il y a un grand philosophe économique qui, du 19e siècle, avait introduit l'idée, il s'appelle Karl Marx, de la compétence collective, du travailleur collectif. Et bon, moi j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'industrie, et c'est vrai qu'il existe dans les entreprises une sorte, presque spontanément, indépendamment des chefs, un certain nombre de choses qui se font par consensus entre des gens qui sont au niveau hiérarchique, au même niveau. Je crois que c'est important. On a cette intelligence en nous, et il faut que on la développe. C'est un des points, je crois, extrêmement important. Hein. Okay. Raison de plus pour dire au SNU, non, ça on n'en veut pas. Enfin, l'abêtissement, ça va. La militarisation, non, pas pour nous.
Oui, parce que justement, éduquer, c'est aussi savoir décrypter les informations, parce qu'on est éduqué à partir de ce qu'on lit. Dans les livres, à la télévision, dans la nature, savoir observer, voilà. Etc.
Faire le tri.
Mais décrypter, c'est très, très important. Et justement, actuellement, mais ça a toujours existé, il y a une propagande, mais actuellement, je crois qu'elle est accrue, une propagande de guerre, comme si on ne peut résoudre des conflits que par des armes. Oui. Et donc, on vend des armes, et on est cocorico, super, on vend des armes, donc on va participer à la victoire. Non.
C'est une chimère militaire.
C'est une chimère, et il n'y a pas de vainqueur lors d'une guerre. Il n'y a que des vaincus. Que des vaincus, même s'il y a...
Que des victimes.
Il n'y a que des victimes, même les États. Oui. Et ça, Jean-Baptiste Say l'a dit, alors que c'était un économiste sous Napoléon Ier, et il a dit, même l'économie du pays vainqueur ne va pas bien. Non. Elle a des conséquences négatives. Absolument. Il y a aussi des conséquences négatives.
Ce sont des fantasmes.
Parce qu'on vend plein d'armes, on est par exemple le troisième, on va peut-être devenir le deuxième vendeur d'armes au monde, cocorico, super, eh bien c'est pas ça qui fera que les Français seront plus riches. Non. Pas du tout, parce que les bénéfices ne vont pas dans la poche des Français qui payent pourtant des impôts. Non. Donc, non, il n'y a pas de vainqueur.
Non, ce sont des fantasmes de vainqueurs. Des espoirs fallacieux. Et avant l'émergence de la science, de la culture scientifique, qui est basée, comme tu as dit tout à l'heure, Yves-Jean, sur la relation entre cause et effet, le stimulus et ses conséquences. Il y a une proportion inverse entre le développement de l'esprit critique et scientifique et la superstition. Moins une ethnie ou un peuple est instruit, et plus les superstitions, les religions prennent une place importante, parce qu'elles sont des repères face au réel qui est extrêmement difficile à maîtriser. Et je vous ai apporté justement une chanson de Stevie Wonder qui parle de la superstition et de ses méfaits sur des cerveaux ignorants. Et j'espère que Ariel pourra nous la faire entendre. Superstition.
Yeah.
Le militarisme est une forme de superstition. Croire que la guerre peut nous donner toutes les satisfactions, c'est une superstition. Et comme disait Stevie Wonder dans sa chanson, si tu crois des choses que tu ne comprends pas, alors gare aux dégâts, gare aux problèmes et tu souffriras. L'accès au savoir et aux connaissances nous apporte beaucoup de sécurité, et la sécurité que nous promettent les armes nucléaires, c'est du pipeau.
C'est de l'insécurité.
Oui, on dit que c'est notre insécurité.
Absolument. La sécurité vient d'une meilleure connaissance des choses et des réalités. Je voulais vous dire deux mots d'un congrès international qui a eu lieu à Londres le 16, 17, 18 juin. Par les War Resisters International, l'IRG en français, l'International des Résistants à la Guerre. Donc ces trois jours étaient consacrés à une rencontre entre une centaine de militants venus du monde entier, dont un chef traditionnel indien de la tribu indigène Wet'suwet'en du Canada. Et ce chef s'appelait Na'moks. Et il a lancé un grand cri d'alarme pour la protection de l'environnement de leur territoire. Parce que le gouvernement canadien, comme les Américains sur le leur, ils poussent le forage du pétrole de schiste, qui est liquéfié et vendu, exporté vers où ?
L'Europe.
L'Europe, puisqu'ils ont très intelligemment saboter le tuyau qui venait de l'autre côté. Et nous, maintenant, nous sommes farcis de pétrole de schiste ultra polluant et qui menace les Indiens d'Amérique du Nord, aussi bien en Amérique, aux USA qu'au Canada, sur leur territoire, parce qu'ils sont expulsés, chassés, expropriés. Et des étendues de territoires énormes sont détruites pour pouvoir faire ces forages de pétrole de schiste. Depuis 1997 déjà, ces tribus amérindiennes sont en procès contre le gouvernement, notamment au Canada. Ils disent, oui, existe. Les pacifistes aussi, ça existe. Ils disent, nos territoires sont uniquement perçus et évalués par nos gouvernements comme des ressources minières et pétrolières. Il faut que le gouvernement rende des comptes. Nous existons, nous aussi. Voilà, c'était le discours du chef indien Na'moks de la tribu indigène Wet'suwet'en du Canada.
Je crois qu'il faudrait écouter également les Congolais de la République démocratique du Congo, dont on ne parle jamais, qui, comme une des conséquences du génocide du Rwanda de 94, donc subissent des pressions des gouvernements, principalement des Rwandais. Dans toute cette région, il y a plus de 10 millions de morts ces 10 dernières années. Mais il faut se souvenir que la guerre au Congo ex-belge a commencé dès dès le processus de décolonisation, parce que ce qui fait le malheur de cet immense pays, c'est qu'il est d'une très grande richesse de sous-sol, et notamment il a dans son sous-sol deux matières qui sont extrêmement convoitées actuellement, parce que il y en a dans tous nos téléphones portables, c'est le coltan, oui. Et puis le cobalt, oui. Donc,
Il y en a en Ukraine aussi.
Il y en a aussi.
Et de l'uranium.
Il y a aussi de l'uranium. Et donc, ce malheureux pays, finalement, se trouve dépecé par toutes les grandes entreprises des pays développés, ou soi-disant développés, au moins économiquement. Et donc, je crois que c'est important qu'on évoque ce malheureux pays, parce que personne n'en parle. Personne n'en parle. Le CIPRI, qui est un des grands observateurs de la chose militaire, si je puis dire, le CIPRI, c'est un institut suédois à Stockholm qui fait des statistiques sur l'industrie d'armement, sur les dépenses d'armement, sur etc. Le CIPRI récemment a dénombré 43 guerres dans le monde. 43. Alors que on n'en parle pas. Bon, bien sûr, il faut qu'on parle de l'Ukraine, bien sûr, il faut qu'on parle du Yémen, il faut qu'on parle du Kurdistan, il faut qu'on parle aussi du Congo, du Myanmar, etc. Mais il y a tous des conflits sur, de moindre intensité, et surtout dont on ne parle jamais, qu'il ne faut pas oublier. Et c'est un peu... pour nous, au mouvement de la paix, quelque chose d'important, c'est de dire cessez le feu dans toutes les guerres. Arrêtons de dire il y a des bons, il y a des mauvais, mais toutes les guerres doivent cesser immédiatement. Et je crois qu'il faut qu'on prenne sur ce point l'exemple de l'appel de Stockholm, qui date de 50 ou 51. 50. Qui disait... qui dit que tous ceux qui utiliseraient l'arme atomique seraient des criminels de guerre, etc. Donc on est quelques années après Hiroshima et Nagasaki. Le général MacArthur, qui était un grand démocrate, je dis ça en dérision, avait préconisé que les États-Unis utilisent l'arme atomique en Corée. Et donc... l'appel de Stockholm, il ne revient pas sur la responsabilité des États-Unis, notamment dans les armes atomiques, mais il dit, à partir de maintenant, il faut que ça cesse. Et donc, nous, ce que nous disons, quand nous disons cessez le feu dans toutes les guerres, on dit, il faut qu'on prenne des dispositions pour construire la paix, parce que la paix, ça se construit, et que, dans un premier temps... On n'utilise plus les armes, mais que on utilise la parole, le cerveau, l'intelligence collective. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Je pense que l'intelligence est la meilleure amie de la paix, et la paix est la meilleure amie de l'intelligence.
Il ne faut pas avoir peur de sa propre intelligence. Il faut juste la mettre en route.
Mais il faut attention à une intelligence formatée. Parce qu'il y a beau... Moi, ça m'énerve quand on fait appel à des experts.
Oula.
Il faut se méfier
l'autorité.
De ça. Voilà, parce que la science, on peut utiliser la science pour le bon et comme le pire. Mais il y a des gens très cultivés, même philosophiquement, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous.
Hélas. Donc ils n'ont pas d'empathie. L'empathie, ça manque.
Donc Edgar Morin, il est formidable pour ça.
Ah oui. J'aurais toujours voulu l'inviter, mais il est trop
notre meilleur centenaire.
Oui. Il vient de publier d'ailleurs un livre.
Exactement. Et j'ai oublié le terme qu'il a utilisé. La reliance.
La résilience.
Il a utilisé la résilience.
La reliance.
Pas dans son dernier livre.
La résilience, c'est Boris Cyrulnik. Oui. Et là, il a utilisé dans son dernier article la reliance, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se relient entre eux. Je trouve que c'est un très joli mot. Et c'est ça qui fait que ça empêche les guerres. Si on se relie entre nous, qu'on partage nos richesses, parce qu'en fait, il y a des richesses sur la Terre, mais elles sont mal partagées, n'est-ce pas ? Par exemple, il y a un Africain, il a 60 fois moins d'eau potable qu'un États-Unien par jour. Bon, il y a des inégalités dans l'accession aux richesses du monde qui sont phénoménales et qui croissent. Et justement, pendant les guerres, les inégalités augmentent. C'est évident. Donc, voilà. Donc, attention aux experts, parce qu'on leur fait dire n'importe quoi et son contraire. Donc, certes, il faut éduquer, il faut avoir du savoir, il faut savoir les choses, mais aussi avoir une éthique.
Oui, la reliance, c'est très, très beau. Parce que ça repose sur la confiance en soi et en l'autre. Et donc, c'est ça la richesse. Il y a de richesse que d'hommes. Il y a un grand homme politique français du XXe siècle qui l'avait dit, un parlementaire. Il n'y a de richesse que d'hommes, mais d'hommes bien construits, pas endoctrinés par des idées archi-fausses.
Et alors maintenant, attention, il faudrait dire aussi de femmes.
Du nain.
Parce que le quatrième domaine est dit égalité entre femmes et hommes. Non, c'est une blague, mais c'est vrai qu'il faut penser aux mots femmes aussi.
On a évoqué Edgar Morin, son dernier livre, c'est un formidable appel à la paix. Je trouve que c'est un des plus beaux plaidoyers pour la paix contre la bêtise humaine. C'est un très grand penseur depuis très longtemps. Et j'ai toujours aussi en tête, alors je suis un inconditionnel, on a rencontré à plusieurs reprises, notamment au Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo, on l'a rencontré plusieurs fois, donc il nous a jamais promis de faire un article pour notre journal Planète Paix, mais il nous a dit, si dans mes livres il y a des choses qui vous intéressent, prenez-les, publiez-les, etc. Donc c'était un magnifique preuve de conscience, et je pense qu'on l'utilise pas suffisamment, mais bref. Et je pense qu'on a des grands intellectuels, Naomi Klein, etc. Mais que l'on cherche à déconsidérer. Ou en disant, mais vous savez, c'est des complotistes, c'est des gens qui, à telle époque, ont dit des choses qui n'étaient pas correctes, etc. Et en fait, quand on demande à ceux qui veulent dévaloriser ces grands intellectuels de nous leur dire quand, où, comment, qu'est-ce qui a été dit, en général, ils ne savent pas le dire, parce que ce sont des mensonges. Et c'est ce qu'on appelle la rumeur. Et là, je termine encore par Edgar Morin, avec un livre magnifique qui commence à dater sur la rumeur d'Orléans. C'était à une époque, je crois que c'est dans les années 60, on disait qu'il y avait des jeunes femmes qui rentraient dans des magasins de vêtements et qui n'en sortaient pas. Et donc, et puis, c'était des magasins tenus par des juifs. Attention, c'était à Orléans, il y a eu donc tout un, et avec toute une équipe de psychologues, de sociologues, etc., Edgar Morin a démontré justement cette nocivité de la rumeur qui court, et qu'il est extrêmement difficile.
Et actuellement, avec les superstitions.
Avec les superstitions, et actuellement, autour d'un certain nombre de choses, il y a des rumeurs qui courent, qui sont incontrôlables, incontrôlées, et sur lesquelles il est extrêmement important, un, de s'exprimer, et de réfléchir à la manière de les contrer.
Et de le vérifier.
Alors, d'abord, il faut vérifier, parce que toutes les informations ne sont pas forcément fausses. Mais il y en a tellement qui sont fausses, que là-dessus, il faut être extrêmement vigilant.
Attention à la manipulation.
Là, il y a des manipulations...
Même à travers le système éducatif, malheureusement.
Oui, bien sûr.
Oui, il faudrait encourager.
Le mot paix n'apparaît jamais C'est comme si c'était un gros mot.
Oui, c'est subversif. C'est une utopie, c'est quelque chose d'irréel, peut-être pour eux.
Non, non, c'est négatif.
Oui, c'est bisounours. On est...
oui, ah oui, ça c'est une très, très belle étiquette pour disqualifier.
Moi je regrette,
c'est nous. Bisounours.
C'est nous qui sommes réalistes.
Oui, c'est nous. Le rêve est à la racine de la réalité humaine.
Oui, tout à fait.
Tout ce qui nous entoure à l'origine a été un rêve. Mmh. Et puis notre intelligence, on a fait une réalité. Un micro, une chaise.
Ce qu'on oublie justement de dire, notamment dans la grande presse, c'est que tous les utopistes que nous sommes de vouloir la paix, on nous dit de toute manière, si vous êtes des rêveurs, bah, mais si vous faites le compte de toutes les grandes avancées auxquelles nous avons participé et dont souvent on est à l'origine. Il y a eu les Nations Unies.
C'est une grande conquête.
Ce qu'on appelait les euromissiles au début des années 80. Plus récemment, et personne n'en parle, il y a eu le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ah. Et ce qu'on oublie de dire, donc, qui rend l'arme nucléaire illégale, mais il y a un point qui, je crois, est extrêmement important, c'est que à l'origine de ce traité, il y a un certain nombre d'organisations c'est ICANN, en anglais ICANN, donc c'est un collectif d'organisations dont le mouvement de la paix, donc qui a travaillé avec des spécialistes, avec des ambassadeurs, etc., pour donner le profil de ce qui est devenu ce traité. Je crois que c'est important parce que c'est nous, le peuple, au travers des ONG, qui avons été à l'origine de ce magnifique truc. Et moi, je trouve que c'est un modèle sur lequel il faut qu'on s'appuie sur d'autres avancées que l'on peut faire. On est très fiers aussi parce que en 2017, cette association internationale, ICANN, a eu le prix Nobel de la paix. Oui. Donc, on en a un petit bout au mouvement de la paix. Et ça, c'est un grand sujet de fierté. Mais là, c'est les peuples. Enfin, la Charte des Nations Unies dit « Nous, les peuples unis, avons connu les horreurs de la guerre, etc. » Nous, les peuples, c'est pas nous, les États.
Non.
Et donc, malheureusement, les peuples sont en général, représentés par des États. Mais il faut que nous, peuples, par l'intermédiaire des ONG notamment, mais aussi par d'autres, on trouve notre place. Et cet exemple-là de la discussion sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires devrait être un exemple à suivre dans d'autres avancées qui nous paraissent tout à fait importantes.
Tout à fait.
Et il me semble, on a fait ce traité. Donc ça, c'est intelligent. Et ça, c'est une preuve d'intelligence.
Voilà.
De sauvegarde de notre planète, pour tous les humains. Mais on ne parle pas assez de ce qui est positif dans notre quête de la paix. Parce que quand même, il y a eu plein de traités. Le traité sur l'interdiction des armes chimiques, c'est grâce aux ONG aussi.
C'est vrai.
Pas que, mais... Le traité contre les armes bactériologiques, c'est aussi une avancée.
Ah, oui.
Le traité sur... la lune, où il ne faut pas mettre d'armes. Il ne faut pas mettre d'armes sur les corps célestes.
Oui.
Eh bien, c'est une avancée. Attention, parce qu'il va bientôt être... le traité ne va plus être... il va falloir rediscuter de ce traité-là, parce que tous les traités ont une durée.
Une durée.
Voilà. Mais ça, c'est une avancée considérable. Il y a des avancées faites par les pacifistes. La zone... Les ZEN, Z-E-A-N, zone exempte d'armes nucléaires. Il y a bien plus de zones exemptes d'armes nucléaires que de zones qui ont des armes nucléaires.
À peu près trois quarts du globe est zone exempte d'armes nucléaires. Ça montre qu'il y a des pays, des peuples qui sont intelligents et qui disent « pas de ça chez nous ».
Mais vous savez sans doute qu'actuellement, les États-Unis sont en train de ramener de nouvelles armes nucléaires modernisées
en Europe.
À Suffolk, dans le sud-est de l'Angleterre, à Rammstein, en Allemagne.
En
donc,
Italie.
Les pacifistes sont vent debout.
En Italie, en Roumanie et en Turquie.
Oui.
Et c'est ça, c'est grave. Une régression.
C'est grave.
Et justement, d'où notre lutte contre l'OTAN. On n'en parle
nous
pas.
Sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers de l'OTAN.
Ah,
et
oui.
De la mainmise américaine sur notre indépendance, en fait.
Bien sûr. Donc, et ça, nous trouvons que nous luttons contre l'OTAN. Donc, on fait partie d'un collectif français, non à l'OTAN, non à la guerre.
Absolument.
Mais qui fait partie d'un collectif international.
Oui.
Et qui organise des contre-sommets, etc., contre le sommet de l'OTAN qui a lieu cette année à Vilnius. Mais franchement, nous faisons beaucoup d'actions contre l'OTAN. Justement, parce que c'est les gens ne savent pas qu'ils possèdent ces 60% du budget total des 40%.
Oui.
1200, il a 1200 milliards de dollars par an.
Inimaginable. Plus de 90% du budget des pays européens va pour l'OTAN. Plus de 90% de notre budget militaire, va pour
peut-être
militaire.
Enfin, on a des chiffres, mais
oui,
c'est désastreux, la mainmise de l'OTAN dans les pays d'Europe.
L'OTAN, il y a des bases. En 2022, donc je parlais du CIPRI tout à l'heure, qui est cet organisme de Stockholm. C'est des chiffres qu'ils nous ont donnés. Oui. C'est pas ce matin, en me brassant les dents, que me suis dit, tiens, etc. Donc, l'OTAN représente 54% du budget mondial de l'armement. Et de 2022 sur 2021, le budget de l'OTAN a augmenté de 7,4%. C'est considérable.
C'est
et je dis 7,4% à dollar constant. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'inflation qui est peut-être de 6-7%. C'est compte tenu de ça. Donc c'est 7,4% en plus de l'inflation. Et juste un petit chiffre pour terminer, parce qu'on ne va pas assommer les gens de chiffres. L'OTAN, non, les États-Unis représentent plus de 40% du budget de l'OTAN. C'est-à-dire que les 31, bientôt 32 pays de l'OTAN sont complètement point et main liés et autres. Et juste pour terminer là-dessus, parce que ça, on ne le sait pas, la loi de programmation des militaires qui est en train d'être votée au Sénat, qui va hélas sans doute passer, dans la loi de programmation militaire, il est réaffirmé que la défense de notre pays est assujettie à l'OTAN.
Hélas.
Et que dans le traité de Lisbonne de l'Union européenne, il est dit très clairement que la politique de défense de l'Union européenne est confiée à l'OTAN.
Ah, c'est sûr.
Donc ça, c'est des textes officiels. Hein.
Ah,
c'est pas des rêveries ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut que nos concitoyens soient très conscients de l'horreur de cette pieuvre. Enfin, souvent, je compare une pieuvre, mais je dis la pieuvre, elle a un avantage, c'est qu'elle n'a que 8 pattes.
Oui.
Tandis que l'OTAN, maintenant, va en avoir 32.
Ouais.
Donc, c'est
avec
4 fois plus.
La
Suède, sans doute bientôt, là.
Comment s'en défaire
de l'OTAN,
de cette pieuvre?
Alors là, il faudrait vraiment qu'on se mobilise, vraiment, dans tous les pays. Faire connaître. Parce que les gens ne savent pas. Parce qu'on parle de souveraineté nationale. Mais on n'est pas du tout souverain, puisqu'on dépend de l'OTAN.
Oui.
Même si on est dans le commandement de l'OTAN depuis Sarkozy. Mais il n'empêche qu'on dépend de... Et s'il y a une guerre ailleurs, par le jeu des alliances, eh bien, on est obligé de suivre, puisqu'on est fait partie de l'OTAN. C'est comme ça qu'en Syrie, par exemple, il y a eu jusqu'à 122 pays qui était en guerre par le jeu des alliances.
En Syrie.
On devrait métamorphoser l'OTAN une association
de paix.
D'éducation.
D'éducation à la paix, c'est ce que nous réclamons. On réclame un ministère de la paix.
Ah oui.
On réclame un institut de recherche sur la paix.
Européen.
Bah d'abord français, parce qu'on n'a peut-être pas assez le pouvoir pour l'instant, comme on est réaliste.
Mais on a l'UNESCO à Paris. Ça m'a toujours scandalisée.
Oui,
on a l'UNESCO, un organisme international pour la paix.
Oui, et la présidente, c'est une Française actuellement.
Et
Il n'a pas beaucoup de rayonnement, je trouve, surtout en Europe.
Oui. Alors, on fait venir des jeunes, justement, le mouvement de la paix fait venir des jeunes pour visiter l'UNESCO.
On devrait manifester devant l'UNESCO.
Mais il n'y a personne devant l'UNESCO, c'est ça le problème. Mais c'est intéressant d'aller...
Il ne faut pas manifester devant, il faut aller à l'intérieur, participer aux activités qu'ils font, faire des propositions d'activités au sein de l'UNESCO. Là aussi, on parlait... C'est à nous de prendre en main la politique que l'on souhaite que notre pays défende à l'UNESCO.
Moi, j'ai l'impression...
Même chose à l'OTAN et même chose aux Nations Unies. Oui. C'est à nous, citoyens, de dire à notre gouvernement, mes cocos, la politique que vous défendez dans ces organisations où vous représentez notre peuple, nous, on n'est pas d'accord. Voilà ce qu'on est... Et ça, c'est à nous, tous les uns les autres, de faire les pressions pour que notre gouvernement nous représente dans l'ensemble de nos valeurs. Je crois que c'est important de dire que c'est notre mobilisation qui va imposer à nos gouvernants de faire ce que nous, on souhaite qu'ils fassent.
Ouais, et l'UNESCO, effectivement, l'UNESCO lutte pour la paix. Oui. Et donc, le mouvement de la paix fait partie d'un collectif au sein de l'UNESCO. Et tous les ans, à l'occasion du 21 septembre, puisque c'est la journée internationale de la paix, ils font des concerts ou des concours, par exemple. Il y a eu un concours de marionnettes.
C'était tout à fait sympa.
C'était formidable. Ils ont lancé dans le monde entier. Il y a eu des projets du monde entier sur les marionnettes. Et ensuite, on a attribué le prix de la marionnette. Mais le problème, c'est que ça ne se sait pas. N'est-ce pas ? Le problème, c'est l'information, puisque personne ne relaie nos activités.
J'ai eu l'impression, ces dernières années, que l'UNESCO tourne un peu en vase clos, un peu comme le Parlement, comme la tendance au Parlement européen.
Eh bien, pourquoi ? Parce que l'ONU, par exemple, elle n'a que 9 milliards d'euros par an, elle, avec ses agences.
C'est pas rien.
Et le budget de la défense, c'est 2200.
Ah oui, oh là là.
Donc on fait le rapport.
Oui, c'est vrai, c'est ridicule.
130 fois
L'OTAN,
plus.
L'OTAN, 1200. L'ONU, l'OTAN, pour la guerre. L'ONU, c'est pour prévenir la guerre, 9 milliards. Et l'ONU a plein d'agences qui font des choses. Et l'UNESCO manque d'argent parce que depuis que la Palestine est rentrée en tant qu'observateur à l'UNESCO, eh bien Israël ne paye plus sa cotisation.
Et les États-Unis,
non plus. Donc il y a un problème d'argent. Parce que pour que ces agences vivent,
on peut pas faire grand chose
et font des choses, parce que les patrimoines, etc., il faut plein de choses, et c'est pas assez mis en valeur pour moi. On décrit beaucoup, mais franchement, non, il y a plein de choses qui sont faites, notamment à l'occasion des journées. On connaît que la journée de la femme, mais il y a aussi la journée des toilettes, justement, pour aider l'hygiène de ce problème dans plein de pays où c'est dramatique.
Tout à fait.
Un problème politique.
Je crois qu'il faut, pousser nos concitoyens et toutes les personnes qui nous écoutent à ce soir à aller à l'UNESCO, de visiter l'UNESCO. Il y a des circuits qui sont autorisés.
Place Fontenoy.
Et de participer à un certain nombre d'activités pour que l'UNESCO représente de plus en plus ce que chacun de nos concitoyens souhaite que ça devienne.
Au lieu d'être très loin des citoyens.
Il faut que les citoyens s'emparent de ce genre de choses.
On va le faire. Nous, on se mobilise déjà actuellement contre les armes nucléaires et contre le SNU.
Bien sûr. Et que contre toutes les guerres de tout temps.
Oui.
Les guerres. Cessez le feu immédiat.
Et négociation. Alors, tu voulais parler du centenaire d'un monument contre la guerre à Jancio.
Oui, parce que nous sommes allés en avril inaugurer le chemin de la paix de 12 kilomètres. Et c'est formidable son tracé parce qu'il part d'une ville qui s'appelle Royère de Vessivière, où il y avait un fusillé pour l'exemple. Et nous partons de ce village pour aller jusqu'à Jancio, où là, on va fêter le 100e anniversaire du monument célèbre, qui est un monument aux morts pacifistes, où il y a un petit garçon qui lève le doigt.
Non, qui monte le poing.
Qui monte le poing, pardon, monte le poing en disant. Maudite soit la guerre.
C'est quelle date? Rappelle-la.
C'est en novembre 2023.
Mais il n'y a pas encore la date fixée.
Non, ce sera autour du 11 novembre. Hein.
Ah oui, oui, d'accord.
Mais il y aura un centenaire et justement, le mouvement de la paix, évidemment, va participer
à ça. Je viendrai.
Mais ça va être cette année bien plus grandiose que les autres années où il y a tous les ans quelque chose le 11 novembre. Oui. Et là, c'est le centenaire de ce monument. Et il faut savoir que justement, les militaires qui passent devant ce monument, ils tournent la tête pour ne pas voir...
Ils ont l'ordre de tourner la tête.
Pour ne pas voir le gamin qui lève le poing en disant « Maudite soit la guerre ».
Et il y a aussi un autre centenaire, justement, dont je vous parle, pour qu'on le transforme en un centenaire de la paix. C'est le centenaire de l'Empire ottoman. Non, de la Turquie. Parce que le président de ce pays, qui est né en 1923... va fêter cette année son centenaire. Et vous savez bien que son dirigeant, il n'a qu'un rêve, la recréation de l'Empire ottoman. Mais si c'est un empire de la paix,
ça m'étonnerait.
Toutes les armées désarmées, on est d'accord.
C'est le traité de Lausanne.
Et voilà. Et qu'on change les mentalités, que la mentalité guerrière soit abolie et qu'on fasse la paix entre tous les peuples.
Et nos amis kurdes, certainement, participeraient à une telle pression pour que la Turquie devienne un État pacifiste.
Un pays de paix.
Savez-vous qu'elle a aboli la peine de mort il y a déjà plus de 20 ans, parce qu'elle espérait pouvoir entrer dans l'Union européenne. Mais maintenant, on doit tout mettre à plat pour construire un monde de paix.
Avec des lois. Avec des lois, oui.
Alors, merci beaucoup.
L'objection de conscience, par exemple.
Merci beaucoup à vous d'être venu.
Il y a plein de choses à faire.
Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Réveillez-vous. Ne mettez pas la tête dans le sable. La paix mérite votre action. À bientôt. Au revoir.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement.